CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Et chaque premier lundi du mois, c'est le menu attendu. Sans pompote en 2019, c'est un engagement de votre part. Ça fait partie d'ailleurs, vous avez déposé ça sur le cahier de doléances à la mairie. Hein. Stop à la pompote. Quoi.
Alors moi, je n'avais jamais prononcé le mot pompote. Hein. Je dois quand même le préciser.
Oui,
je
mais ça vous va si bien.
Oui, mais la compote reste quand même un moyen quand même de conserver des fruits.
Hein, oui, mais pour nous,
les
CFM...
gens qui ont beaucoup, beaucoup de fruits dans leur jardin, et il y en a beaucoup dans notre région une fois de plus, c'est quand même un bon moyen de conserver, c'est dommage de jeter.
Pour nous à CFM, vous êtes Madame Pompote. Et ça vous va tellement
bien.
Allez, le menu de ce mois de février.
Bon, alors, on commence par le petit déjeuner de façon traditionnelle. Je vous propose donc cette fois-ci une, deux, trois, selon votre appétit, petites tranches de pain grillé avec un petit peu de jambon blanc.
Ouais.
Suivi d'un fromage blanc ou yaourt, si toutefois vous consommez des produits laitiers, et dans lesquels vous pourriez, nature, et dans lesquels vous pourriez ajouter quelques petits fruits rouges type cranberry, 10-15 grammes, c'est-à-dire une bonne cuillère à soupe, suffit largement. Et nous réhydratons notre corps à ce moment-là de la journée avec, par exemple, un thé.
Ou une infusion.
Ou une infusion ou un café, selon, bien sûr, le goût de chacun.
En mode ribose. Vous nous le dites souvent,
yes.
C'est la classe
c'est la société classe.
De consommer du ribose,
voilà.
Qui n'est pas un thé, qui est une infusion et qui a plein de vertus. Hein,
parce que voilà, on en avait fait une rubrique qu'on peut retrouver, j'imagine, sur votre...
Sur le site de CFM en podcast, absolument. Juste, c'est pas mal votre histoire de tartine grillée et puis surtout le jambon. Ça manquerait pas un peu de beurre demi-sel et
alors,
d'un
si
petit camembert
pouvez... Alors, le camembert, vous allez voir dans les menus que j'imaginais pour la journée,
salé,
il y aurait quand même déjà des produits laitiers. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, les recommandations officielles font qu'on abaisse peut-être un petit peu. Certaines personnes décident de les enlever. C'est un choix, c'est un débat, on en a mille fois parlé. Mais en tous les cas, pour le commun du mortel, de toute façon, la tendance est plutôt à les abaisser un petit peu. Hein, donc voilà, parce que dans mon menu à moi, il y a quand même du fromage blanc ou du yaourt. Donc si vous rajoutez un fromage, du coup, ça peut faire un peu beaucoup.
Le fromage blanc, on est vraiment obligé ?
Bah, si vous aimez ça, David. Il y a beaucoup d'auditeurs, j'en suis sûre, qui vont vous écrire une lettre dès demain vous disant « Moi, j'aime les pompotes et les fromages blancs ».
La Maïté de la naturopathie depuis quelques années maintenant sur l'antenne. Tu vas nous parler d'un livre aujourd'hui, La fin d'Alzheimer.
Oui, souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous avais raconté
mon
aventure au colloque sur le cerveau à Toulouse avec l'intervention donc d'un professeur et la présentation. Enfin, il nous avait suggéré comme lecture en fait ce livre, La fin d'Alzheimer, écrit par un Américain, le docteur Dale Bredesen. Je sais pas comment. Il faut le prononcer. Mais en tout cas, ce livre est présenté comme le premier programme qui prévient et inverse le déclin cognitif. Et effectivement, dans son ouvrage, dans ses études, dans le programme qu'il a mis au point, il y a des rémissions. Donc la maladie d'Alzheimer ne serait pas une fatalité. L'idée, à travers cet ouvrage, c'est de comprendre en fait ce qu'est la maladie d'Alzheimer, par quoi elle est causée et comment en fait on peut y remédier. Alors, comment on peut la prévenir, bien sûr, et comment on peut y remédier. Et c'est formidable parce que, pour moi, ce livre, c'est une vraie bombe. Et tous les médecins devraient le lire. Ouais. Alors, en fait, lui, il faut savoir déjà que la maladie d'Alzheimer, c'est quand même la seule maladie parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde contre laquelle il n'y a strictement aucun traitement efficace. Malgré tous les progrès qu'on a pu faire en neurosciences, ils n'ont pas réussi. Pourtant, les labos sont investis parce qu'on peut imaginer quelle source de diffusion de médicaments les malades d'Alzheimer. Mais ils n'ont rien trouvé. Ou alors, ils ont trouvé des choses qui ne servent à rien. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi ? C'est des plaques de protéines, des plaques amyloïdes, en fait, qui se forment entre les synapses et qui empêchent, en fait...
Des connexions.
Des connexions, exactement, et qui programme en fait la mort et des neurones. Et en fait, voilà, il y a un déclin cognitif qui se fait au fil du temps. En fait, la maladie d'Alzheimer, pour ce neurologue, en fait, c'est le résultat d'une mesure de protection de l'organisme contre plein d'agressions, enfin on va le voir, et plein de mécanismes qui se mettent en place pour la et qui conduisent en fait à cette pathologie. Mais on va le voir. C'est pas, il y a pas des profils comme ça, dire oui c'est comme ça. C'est très complexe en fait. Enfin, très complexe, c'est pas tant que ça finalement. Bon, on va le voir. Je vais expliquer. Donc je reparle de ces plaques amyloïdes. Donc on se dit ça c'est la cause de la maladie d'Alzheimer. Donc si on supprime ces plaques, ça devrait fonctionner. Et en fait, ils ont mis au point en fait des médicaments, enfin de la chimie pour éliminer ces plaques, et ça n'a pas fonctionné.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Bonjour Myriam.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va et vous ?
Oui, très bien. Oui, alors en fait, voilà, on est content de t'avoir aujourd'hui. On aurait voulu savoir un petit peu, avoir un retour en fait sur cette expo que tu nous as proposée au haut-parleur au mois de janvier. Voilà, comment ça s'est passé? Il me semble que tu avais fait un petit vernissage aussi.
Et tu as eu des retours sur le succès de ton expo?
Alors ouais, quand j'ai installé mon expo, en fait quelques jours après j'ai fait le vernissage. Et donc j'ai fait des rencontres de gens qui ont observé mes dessins, qui ont beaucoup aimé, qui ont vachement aimé. J'ai eu pas mal de retours sympas.
Et, oui. Il faut préciser que tu nous avais déjà offert une expo il y a quelques années, hein, qui avait été aussi, qui avait eu un super succès. Je crois que c'était en octobre 2015, un truc comme ça. Voilà. Entre-temps, tu as eu un parcours, me semble que tu étais partie en Espagne, à Granada. Je ne sais pas si c'était pour travailler ou... Tu étais partie, en tout cas, hein.
J'ai continué là-bas à créer, ouais.
Ah, d'accord.
Et c'était aussi pour créer un solo de clown, au départ.
Ah, d'accord. Et ta formation, tu as une formation en art graphique?
Ouais, j'ai fait un bac production graphique.
Oui.
Et en fait, pendant cette formation, je m'entraînais, je dessinais, parce que c'était pas forcément une formation pour dessiner. Pour être illustrateur ou n'importe, c'était de l'ordinateur, quoi. Et moi, j'aimais bien aussi toucher au papier, donc je faisais ça.
Tact avec le papier et les couleurs.
Ouais,
et comment tu qualifierais ton travail? Parce que si on explique un peu à des gens qui n'ont pas vu, tu emploies, il me semble, de l'encre de Chine. Avec, au niveau des couleurs, c'est quoi? C'est de l'aquarelle?
Oui.
C'est ça? C'est de l'aquarelle?
Ouais. Ouais. Il y a du pastel aussi.
Du pastel, d'accord.
Du pastel gras et sec, mais là, en fait, c'est plutôt du gras. Et après, je fais de la couture aussi. Enfin, j'aime bien coudre dans le papier.
Ah oui,
ça met de la couleur et ça met du volume.
Alors, on va discuter un petit peu de cette création-là que vous avez réalisée, qui est basée sur l'histoire vraie d'une autre création, connue, en tout cas par des amateurs de théâtre, qui s'appelle En attendant Godot, de Samuel Beckett. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi de faire un spectacle autour de cette œuvre.
Oui, alors en fait, c'est toute une petite histoire. J'ai commencé, j'anime de nombreux ateliers théâtre et j'avais commencé à travailler sur des extraits d'En attendant Godot avec mes élèves. Et puis, on prévoyait de faire un petit atelier à la fin de l'année autour d'extraits de cette pièce célébrissime. Et puis, en travaillant sur la pièce, en me documentant un peu, je suis tombée sur une interview de Roger Blin, qui est le premier metteur en scène de la pièce, qui a créé la pièce en 1953. Et cette interview, donc, qui était face caméra, c'était un document INA en noir et blanc, où Roger Blin raconte très simplement, c'était quelqu'un qui avait une façon de s'exprimer extrêmement humble, extrêmement simple, il raconte sa rencontre avec Samuel Beckett et puis l'aventure qui a été de réussir, d'essayer de monter cette pièce qui a duré 3 ans, puisque à l'époque, en 1950, quand les différents directeurs de théâtre ont eu dans les mains ce texte En attendant Godot, tous, à l'unanimité, ont décrété que ça n'avait aucun intérêt et que c'était ni fait ni à faire, que c'était complètement stupide et que ça n'avait pas d'intérêt de monter cette pièce. Voilà. Roger Blin était co-directeur du théâtre de la Gaîté Montparnasse et il a proposé à ses associés qui lui ont dit non, c'est hors de question, on montrera jamais ce truc qui n'a aucun sens. Et Roger Blin est parti de la Gaîté Montparnasse avec le texte sous le bras en décidant d'essayer de trouver une solution pour monter le texte parce que lui a eu une intuition. Il dit, quand j'ai lu ce texte, j'ai su qu'il fallait le monter, j'ai su que c'était extraordinaire. Mais voilà, il dit, j'ai pas tout compris à la pièce, je savais que ça, c'était du vrai théâtre.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Ce que vous apportez, Amick Bedel, c'est peut-être le décalage du monde occitan et puis l'autodérision, c'est ce qu'on pourra découvrir avec la projection du film La Sierra. Deux pilotes en fait, puisque c'était l'idée de départ, hein, je crois savoir, d'imaginer une série d'épisodes, mais une série en occitan. Largement inspirée Alors, pas largement inspiré, mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser, c'est très drôle. Je suis en train de visionner une série en ce moment, à côté de laquelle j'étais totalement passé, qui s'appelle Platane, d'Éric Judor, d'Éric et Ramzy.
Ah oui.
Ça m'a fait penser à Quentin Dupieux aussi, le cinéma qui filme le cinéma. Et puis peut-être quelque chose aussi de grolandesque ou de Bruno Dumont avec le petit Quinquin, quelque chose de burlesco, je ne sais pas tout quoi.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est une série en occitan. On s'est dit, avec Julien Camprodon, avec qui j'ai écrit cette série, lui, il est écrivain, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on soit très ambitieux, il faut qu'on fasse aujourd'hui ce qui marche, c'est des séries. Donc, il faut qu'on produise une série. Bon, c'était en 2013, 2012 ou 2010, même quand on a commencé à écrire. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse une série. Et on s'est dit, bien, cette série, elle pourrait raconter l'histoire de gens qui veulent faire eux-mêmes des films en occitan. Et parce qu'on nous disait que ça pouvait prêter à quelque chose d'assez burlesque. Et surtout de porter un regard assez drôle et beaucoup d'autodérision sur le milieu occitaniste, sur le milieu occitan. En fait, en gros, de mettre tout ça à nu pour le rendre accessible en se disant, voilà, plus on mettra ça à nu, plus les gens qui ont des difficultés à y rentrer pourront y rentrer, en fait. C'est un petit peu les parties pris de départ de ce projet-là. Julien, il a déjà un univers, lui, en tant qu'auteur, assez drôle, assez décapant, et du coup, associé à ce qu'on avait envie de faire et aux références, d'ailleurs, toutes les références que vous avez citées sont justes. C'est-à-dire que Platane, c'est une série qui m'avait beaucoup plu quand elle est sortie sur Canal. Voilà, Dupieux aussi, c'est des Dupieux et Dumont, c'est pour moi des réalisateurs très très importants dans le paysage cinématographique français actuel, et on peut dire qu'ils sont pas nombreux, quoi, les gens qui sont vraiment intéressants, donc ça me fait plaisir.
CFM à Villefranche, 90.2, 90.2.
On ne finit pas.
Jeudi, et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouer.
Éric Lachon, chef d'édition, journaliste au Villefranchois. Bonjour Éric.
Bonjour David.
On commence la revue de titre du jour avec le dossier de la semaine.
Un dossier qui en fait lance une série d'articles. Nous allons consacrer au cours de l'année 2019 une série de dossiers consacrés à l'époque que l'on a qui restait dans l'histoire sous le nom des 30 Glorieuses, c'est-à-dire grosso modo la période qui suit la Seconde Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier, c'est-à-dire 1975, pendant laquelle eh bien la France se reconstruit. Et où il y a le plein emploi, une activité économique intense, et qui est restée pour beaucoup de Villefranchois qui ont connu cette période comme un peu le temps béni de la jeunesse d'abord, et puis d'une forme d'insouciance. Et durant cette période, il faut savoir que Villefranche a profondément été modernisé, métamorphosé. Des grandes orientations sociétales se sont dessinées au cours de cet âge d'or. Notamment, eh bien, le fait que la population ait quitté le centre-ville pour s'installer en périphérie, la construction de zones pavillonnaires, les premières grandes surfaces sur le tour de ville.
Et grosses fortunes.
Et puis des sagas familiales qui se sont réalisées, effectivement, autour, par exemple, de Jeannot le Paysan ou d'autres familles qui ont laissé leur trace dans l'histoire de notre ville. Donc, le premier chapitre de cette série est plante un peu le décor. Hein, comment Villefranche était au sortir de la guerre, hein, que sur le plan démographique, sur le plan économique. Et vous verrez que la situation n'était pas brillante du tout, que le commerce périclitait, que finalement la population aussi avait fortement chuté. Puis petit à petit, eh bien sous l'impulsion de quelques visionnaires, et puis ensuite par l'action d'un conseil municipal qui était derrière Robert Fabre, eh bien on a petit à petit redressé la situation et fait de Villefranche une cité on ne peut plus prospère au point qu'elle faisait partie des villes les plus commerçantes de France en termes de nombre de commerces par habitant. Voilà donc un dossier complet à découvrir donc dans notre édition, le premier d'une longue série qui, je l'espère, va passionner nos lecteurs parce que ceux qui l'ont connu, eh bien, ils retrouveront un décor assez familier, puis ceux qui étaient trop jeunes pour avoir appréhendé cette période comprendront mieux comment Villefranche se situait à l'horizon au début des années, entre les années 60 et 70. Quoi.
Gilbert Meignier, président de l'association Gilets jaunes Occitanie, et Marie Delbos, trésorière de l'association, sont aujourd'hui avec nous en studio. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, au rang des doléances, en numéro un, c'est le pouvoir d'achat, et en deux, on trouve le référendum d'initiative citoyenne. Ça mérite une petite explication. On peut peut-être laisser la parole à Marie pour nous en dire un petit peu plus. Alors, sur la conférence, et puis sur c'est quoi un référendum d'initiative citoyenne? Samedi, ça sera l'occasion d'être complet aussi sur le sujet, mais...
Alors oui, on pense que c'est bien d'informer la population, nous les premiers, hein, on ne sait pas tout. Et là, il se trouve qu'on a rencontré deux jeunes qui se sont lancés dans des conférences sur le RIC. Ils en sont à leur sixième conférence avec Villefranche. Donc c'est une conférence qui va se dérouler en deux temps. Pendant la première heure, ces deux personnes vont expliquer ce qu'est le RIC. Et la deuxième heure sera... consacré à questions-réponses. Les gens qui sont dans le public vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils ont envie.
En trois mots, si on avait à définir le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Moi, je dirais que c'est la possibilité pour le peuple de se poser des questions à lui-même et pour savoir s'il juge telle ou telle importance et de pouvoir voter. C'est l'expression.
Ouais, moi je le pense pour le RIC, je suis d'accord avec Marie, ça ouvre des portes énormes, c'est-à-dire que nous on part du principe aujourd'hui qu'on a perdu nos valeurs de république. Si on prend la valeur de la république depuis le départ, c'est le gouvernement du peuple avec le peuple pour le peuple. Ça on l'a complètement perdu parce qu'on est dans un monde d'argent et on gouverne avec l'argent et non pas avec le peuple. Et moi, je pense que le RIC peut faire une chose importante. Dans le RIC, c'est le mot porte bien, c'est un référendum d'initiative citoyen. C'est-à-dire que chaque citoyen pourra éventuellement donner une idée. Et par rapport à cette idée, le fonctionnement de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les grandes décisions d'État doivent être prises par le peuple et non pas par un soi-disant représentant. Notre constitution aujourd'hui, dans la forme de cette constitution, elle est faite pour virer des présidents. On pourra mettre n'importe quel président, ça n'ira jamais. Pour une simple raison, c'est qu'on vote souvent par défaut. Hein. Pourquoi ? Parce que des gens ne vont pas voter, parce que des gens en ont marre de cette politique, et il faut donner l'envie aux gens d'aller voter. Et pour que les gens aillent voter, faut que leur vote soit pris en compte. La personne qui n'est pas d'accord avec les gens qui sont en phase 2 devrait pouvoir voter blanc, et que ce blanc soit pris en compte.
Ah, c'est la fin !
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement, ni fin, et c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait de fin.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.